Chers auditeurs, l'émission que vous allez suivre à présent est une rediffusion d'une émission enregistrée en 2009. Des hommes travaillés par Dieu, histoire de l'abbaye de Belloc, c'est le titre du nouveau livre écrit par le père Marc Doucier, bénédictin à Belloc, qui vient de paraître aux éditions Cerf Histoire. Qui mieux que des bénédictins de Belloc peuvent nous présenter cet ouvrage et nous remémorer quelques grands événements de l'histoire de l'abbaye de Belloc. Je vous laisse donc en compagnie du frère Jean-François et du père Marc Doucier, auteur de cet ouvrage « Des hommes travaillés par Dieu, histoire de l'abbaye de Belloc », un ouvrage paru aux éditions Cerf Histoire.
Chers amis de Radio La Pourdie, bonjour. C'est frère Jean-François qui vous parle et j'ai le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui avec un frère de la communauté de l'abbaye de Belloc, le père Marc Doucet. Vous connaissez sûrement le père Marc Doucet, vous savez que très souvent il anime des journées spirituelles sur des thèmes. Père Marc, bonjour.
Bonjour. Bonjour frère Jean-François.
Alors les amis de Radio La Pourdie ont sûrement entendu parler de vous parce que vous venez de sortir un livre extraordinaire qui a demandé des années de travail, vous allez nous expliquer, qui s'intitule « Des hommes travaillés par Dieu ».
Oui, je ne sais pas si c'est un travail extraordinaire, mais enfin je l'ai sorti et à la demande de la communauté et du père Abbé.
Parce que le père Abbé a suggéré l'idée.
C'est pas exactement comme cela que ça s'est passé. Déjà, le père abbé Xavier Diars, Iratzeder, quand il a été élu abbé en 1972, avait dans l'idée de faire de quelque manière une histoire de Belloc, d'écrire ou de trouver quelqu'un qui écrive cette histoire de Belloc. Bon, il n'en trouvait pas, et quand il a cessé d'être abbé en 87, le père Jacques d'Amestois, à la suite, a repris cette même idée, et puis, il n'a pas trouvé pour écrire, et c'est en novembre 96 qu'il m'a dit « Bon, ben, cette histoire de Belloc, ça traîne, on en parle, mais c'est toujours au stade zéro, et va demander à tel ou tel s'il peut l'écrire. » Et c'était un laïc. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je ne vois pas quelqu'un qui n'est pas moine écrivant l'histoire d'un monastère. Ça me paraissait très difficile. Il me semble qu'il faut vraiment être moine, et être moine depuis un certain temps pour comprendre vraiment de l'intérieur la vie d'un monastère. C'est pourquoi je lui ai dit, je me propose pour écrire cette histoire. Bon, rien ne me préparait à cela, me semblait-il, mais je me disais, il vaut mieux un moine que quelqu'un qui est vraiment de l'extérieur. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
À cette époque, vous aviez de nombreuses fonctions au sein de la communauté, notamment celle d'hôtelier, ce qui vous a permis peut-être de rencontrer non seulement beaucoup d'autres qui viennent faire des retraites spirituelles au monastère, mais aussi des personnalités et même des historiens, parce que vous avez dû être guidé par des historiens, des professionnels dans la matière, je pense, non ?
J'ai rencontré à l'hôtellerie, j'ai fait des rencontres parfois qui m'ont vraiment aidé. Par exemple, je me souviens d'un officier de haut rang qui avait fait retraite dans le monastère, et en partant, il me dit, Père Marc, je vous remercie beaucoup, je suis très content de ce séjour. Si un jour l'occasion se présente et que je peux vous aider, eh bien, je le ferai bien volontiers. Voilà, bon. Et j'ai réfléchi et j'ai été très touché de cette demande. Et justement, je me posais pas mal de questions. J'étais dans des recherches sur les fondateurs qui avaient participé comme aumôniers à la guerre de 1870. Je savais qu'ils l'avaient fait, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre pour savoir où ils étaient, qu'est-ce qu'ils avaient fait, dans quelles unités, etc. Et je lui ai dit ça. Et il m'a dit, écoutez, c'est très facile, et il m'a orienté vers les archives militaires. Le service historique de l'armée de terre, ça s'appelait comme ça autrefois, à Vincennes. Voilà, par exemple, une rencontre que j'ai faite. Et puis ensuite, j'ai demandé au professeur Agostino, qui est professeur d'histoire à l'université de Bordeaux, que j'avais contacté déjà plusieurs années auparavant, pour qu'il fasse aux jeunes du monastère des cours d'histoire de l'Église, voilà, par exemple.
Et j'étais un de ses étudiants.
Voilà, oui.
Donc, Père Marc, si on peut déjà résumer cette introduction à l'histoire de ce livre « Des hommes travaillés par Dieu, histoire de l'abbaye de Belloc », on peut dire déjà que la Providence a conduit ce travail dès le départ.
Oui, je n'en parle pas trop de la Providence, même pas du tout, mais je pense qu'elle a été depuis le début jusqu'à la fin. Que vraiment, ce travail, j'ai été très aidé par la Providence. Bon, je ne le dis pas parce qu'il faudrait expliciter, puis je ne veux pas avoir l'air trop illuminé, mais je le pense quand même, oui.
Et puis, vous avez été aidé aussi par Françoise, qui, faisant des séjours au monastère pendant ses vacances, vous a donné un sacré coup de main au niveau du secrétariat, parce que d'archives compulsées.
Voilà, ce n'est pas exactement un travail de secrétariat, mais beaucoup de personnes, effectivement, m'ont aidé. D'abord, dans le monastère, plusieurs frères se sont proposés, par exemple, Père Louis, qui n'est plus de ce monde, Père Gaëtan, etc. Bon, beaucoup, beaucoup de frères se sont proposés, soit pour taper à la machine, enfin informatique, à l'informatique des textes, soit plus tard ensuite pour relire ce que j'avais écrit. Et des laïcs également m'ont aidé, en particulier cette Françoise que vous citez, qui chaque année est venue au monastère passer quelques jours, jusqu'à 15 jours, et qui non seulement tapait des textes, qui m'en a tapé des quantités, mais en plus qui même déchiffrait parfois des documents où il fallait passer un temps fou. Et moi-même, j'étais hôtelier, comme vous l'avez dit à l'époque, et puis j'avais d'autres fonctions, je n'avais pas tellement de temps. Voilà, ce qui fait que j'ai été, je dois le dire, très aidé effectivement par quantité de gens, de frères spécialement.
Parce que les lettres d'autrefois étaient écrites à la plume, avec une calligraphie, et certaines de ces lettres, les écritures, c'était un peu des pattes de mouche, non ?
Oui, ça dépend. C'était écrit à la plume, évidemment, pas à la plume d'oie quand même, mais enfin, à l'encre. En général, les encres sont bonnes, les papiers sont bons, les écritures ne sont pas toujours très lisibles, parfois c'est illisible, parfois ce sont des pattes de mouche, et non seulement cela, mais parfois c'est même en abrégé. Par exemple, le fondateur de Belloc, le père Bastre, souvent cite l'écriture avec uniquement les initiales. Par exemple, il ne dira pas « ut in omnibus glorificetur Deus », il écrira « U-I-O-G-D ». Par exemple, bon, ce cas-là est facile, mais bien souvent, il cite uniquement des séries d'initiales, et puis au lecteur de trouver quel est le passage de l'écriture qui est cité.
Donc, nous avons parlé brièvement de ce travail d'archives écrites, mais nous savons bien qu'il existe une tradition orale et que dans notre campagne, la tradition orale a aussi son importance. Pouvez-vous nous dire un petit mot de ce que c'est que la tradition orale, puisqu'on est maintenant dans une tradition écrite à 100%.
Oui, eh bien, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans les monastères, il existe une tradition orale. Certains frères, parmi les anciens, n'ont pas trop en tête tout ce qui s'est passé, mais certains, au contraire, ont assez présent. Par exemple, un cas tout à fait exceptionnel, qui me paraît au moins tout à fait exceptionnel, c'est le cas du père Henri Echeverria de Saint-Jean-de-Luz, qui nous a quittés, qui est mort récemment. Eh bien, il avait une mémoire exceptionnelle des faits de l'histoire de Belloc, et même des faits très anciens que, par exemple, tout le monde a oublié. Par exemple, les premières expulsions du monastère qui ont eu lieu en 1880, on ne s'en souvient pas à Belloc. Et pourtant, lui se souvenait. Avec des évocations dont il avait entendu parler assez précises. Ou bien encore, enfin j'ai plusieurs cas en tête, il se souvenait de faits, d'événements importants dans l'histoire de Belloc, et ce dont il se souvenait, c'était juste. avec, en retrouvant les documents d'archives, il fallait préciser les dates, les événements, les personnes, il fallait préciser, mais fondamentalement, c'était juste. Et j'ai été très impressionné donc, par cette tradition orale.
Donc c'est une histoire où il a fallu regrouper les documents, interroger, recouper les informations pour voir si elles étaient historiquement valables, s'il n'y avait pas de la fioriti ou je ne sais quoi comme exagération. Tout cela a un peu, j'allais dire, vous qui êtes aussi un dessinateur, puisque je tiens à préciser que la couverture est une de vos aquarelles sur Belloc. Finalement, cette histoire de Belloc, vous l'avez traitée aussi un peu comme une aquarelle, c'est-à-dire que vous aviez un paysage devant vous, vous aviez des monuments devant vous, vous aviez des traces de l'histoire. Il fallait maintenant mettre tout cela un peu en forme et que ça soit agréable après pour le lecteur.
Voilà, bon. Alors, mettre en forme, c'est une chose, et mettre en forme à la manière d'une aquarelle, c'en est une autre. Et effectivement, je ne dis pas que j'ai écrit comme j'ai fait ces petits dessins, mais un peu quand même. Par exemple, vous citez la couverture, la couverture représente la façade nord de Belloc. Je crois que j'ai représenté ce qui est, mais il faut bien dire que je n'ai pas dessiné exactement cette façade nord. Par exemple, j'ai enlevé une espèce de cahute qui est très évidente, où il y a des moteurs, des fils dans tous les sens, j'ai supprimé. Et je pense que finalement, un dessin, une aquarelle, est plus vrai qu'une photographie. J'aime bien le théologien Nicolas Berdiaeff et il dit ceci que, je ne sais pas trop comment il dit, qu'une peinture c'est une transfiguration, ce n'est pas une reproduction. Eh bien, je n'ai pas voulu effectivement, comme dans une aquarelle, faire une reproduction, à supposer que le terme soit juste, de l'histoire de Belloc, mais un mot de transfiguration serait inadapté, mais quand même, il y a un travail inévitable de reconstruction, le plus vrai possible, mais je crois qu'une vraie reconstruction n'est pas une reproduction dans tous ses détails, mais au contraire, une mise en évidence de ce qui m'a paru le plus au cœur de cette vie. Voilà ce que j'ai essayé de faire.
Donc ce livre n'est ni une légende dorée, d'une certaine façon, ni non plus une histoire officielle un peu froide. C'est une histoire de famille que vous voulez raconter, et une histoire d'homme de chair et de sang, mais habitée par l'esprit.
Oui, j'espère. Alors, pour moi, dès le début, quand je me suis lancé dans le travail, il n'était pas question de faire une histoire qui serait l'histoire officielle, genre en langue de bois. Il n'était pas question de faire une histoire qui serait dans le genre légende dorée. Et pour une conviction très profonde, c'est que je crois que l'histoire de Belloc est très humaine. Et en même temps, je crois que c'est une histoire sainte. Et je pense que Dieu a été présent dans l'histoire de Belloc, mais dans une histoire qui est une histoire d'homme. Et Dieu n'est pas présent dans la légende dorée, mais il est présent dans l'histoire des hommes tels qu'ils sont, en chair et en os. C'est pour ça que j'ai donné ce titre, des hommes travaillés par Dieu. C'est un titre qui n'a rien de spécifique au moine de Belloc, parce que quelle est la personne au monde qui n'est pas travaillée par Dieu ? Tout homme, tout être humain est travaillé par Dieu, bien sûr. Mais pour moi, il n'était pas question de donner un titre exagéré ou de décrire une fausse sainteté. Je crois à la sainteté de Belloc, mais je crois qu'elle est dans une histoire qui est très humaine. Exactement comme dans la Révélation, la Bible est une histoire effroyablement humaine, bien souvent, et pourtant c'est là que l'on trouve Dieu, que Dieu est dans cette histoire que Dieu s'est révélé.
Alors ce qui est magnifique, c'est que Dieu s'est impliqué dans cette histoire de l'alliance, d'alliance avec chaque personne, qui que nous soyons, hein, qui que tu sois, Dieu interpelle ton cœur et fait alliance avec toi. Eh bien, vous aussi, en tant qu'auteur, vous êtes impliqué dans cette histoire. de l'abbaye de Belloc.
Certaines personnes qui ont lu le livre m'ont dit, m'ont fait cette remarque, oui, on vous sent impliqué. Je n'ai pas cherché spécialement à m'impliquer, pas du tout. Je n'ai pas cherché non plus, et ça m'était difficile d'être un auteur qui voulait être tellement historien détaché et distant du sujet, qu'il en parle comme d'un sujet froid et lointain. Bon, alors entre les deux, voilà, c'est ça.
Ce livre est très important. Et il y a aussi une autre personnalité qui est mentionnée sur la couverture de cette histoire de l'abbaye de Belloc. C'est la préface de Monseigneur Claude d'Agens, qui est donc tout le monde sait que c'est un nouvel élu de l'Académie française. Le fait d'avoir demandé à Monseigneur Claude d'Agens d'écrire la préface de ce livre est aussi une longue histoire d'amitié entre Monseigneur Claude d'Agens et vous, Père Marc.
Voilà, et entre Claude d'Agens et moi, c'est, je dirais plutôt entre Mgr Claude d'Agens et l'abbaye de Belloc. Alors, je voudrais dire ceci. Effectivement, j'ai demandé à Mgr d'Agens qu'il veuille bien faire cette préface et il a accepté très volontiers. Alors, je dirais ceci. Ce n'est pas à Mgr Claude d'Agens, académicien, que j'ai demandé la préface. C'est... je dirais, ce n'est même pas à Monseigneur Claude d'Agens. Et je dirais, c'est à Claude d'Agens, ou plutôt à l'abbé Claude d'Agens. Parce que je lui ai demandé cette préface pendant que j'étais en train de faire le travail, pendant que je rédigeais, période de rédaction, je lui ai demandé cette préface en août 2007. Et lui-même n'a été élu à l'Académie que le 17 avril 2008. C'était quand je lui ai demandé cette préface, on ne pensait pas du tout qu'il serait un jour académicien. Donc ce n'est pas à l'académicien. Et je dirais ce n'est pas non plus à l'évêque que je l'ai demandé, mais c'est à l'abbé Claude d'Agens. Il y a un petit passage que, dans le livre que lui seul peut décrypter. Il l'aura vu, bien entendu. Et je lui ai demandé parce que... il fréquente le monastère, il est lié avec le monastère depuis 40 ans. Il a été lié très spécialement avec le père Ildefonse d'Haricot. Et entre nous, il m'a parlé vraiment avec... il m'a dit ma vérité et sur son point de vue avec beaucoup de courage, comme un prêtre peut parler à un prêtre. Voilà la vraie raison. Bien sûr, il y a la longue amitié avec Belloc depuis 40 ans, mais c'est ce qu'il m'a dit, qui est que seul un ami prêtre peut dire à un ami prêtre, c'est cela. Et que, c'est un petit peu évoqué, lui seul donc peut décrypter cela dans le livre, mais voilà le motif fondamental pour lequel je lui ai demandé. Alors, par la suite, il est devenu effectivement académicien. Voilà comment j'ai demandé à Mgr d'Agens cette préface, qu'il a bien voulu accepter.
Donc, chers amis auditeurs de Radio La Pourdie, nous avons évoqué dans un premier temps un peu comment ce livre a été écrit, quelles sont les personnalités qui ont aidé à ce travail auquel Père Marc, j'allais dire, était la cheville ouvrière, et puis en même temps celui un peu le chef d'orchestre, pour arriver après enfin de devenir l'écrivain. Et maintenant, nous allons aborder une autre volet sur l'histoire de ce livre, qui est peut-être qui est la découverte de ce qu'il y a dedans. Parce que les personnes qui viendront à la librairie de l'abbaye de Belloc pour prendre ce livre, car c'est un livre qui fait historiquement date dans notre histoire de l'abbaye, l'histoire locale, l'histoire régionale, l'histoire de l'Église, l'histoire de France, pourquoi pas, eh bien, dedans, il y a une aventure exceptionnelle et qui commence dans les années 1870 et qui se vit encore. Donc, c'est l'histoire de l'abbaye de Belloc a été confrontée avec l'histoire de notre pays, année après année, mois après mois.
Oui, depuis le début, l'histoire de Belloc est très liée à celle du diocèse, et spécialement du clergé du diocèse. Le monastère a été fondé en 1875, très précisément le 1er septembre. Elle a été fondée par des prêtres diocésains, ce qui est tout à fait atypique puisque normalement un monastère est fondé par des moines. Un groupe de moines se détache d'un monastère et va fonder à tel ou tel endroit, à droite ou à gauche, un nouveau monastère. Après la Révolution française, ce n'est pas comme cela que les monastères sont renés. Il ne restait plus rien, bien entendu, après la Révolution et Napoléon. Et que ce soit Solesmes, qui est le premier monastère qui a été fondé en France, il a été fondé par un prêtre diocésain. De même, le second, qui est La Pierre-qui-Vire, qui a été également fondé par un prêtre diocésain. Et bien, de même, Belloc a été fondé par des prêtres qui étaient missionnaires diocésains d'Asparin.
Vous pouvez préciser ce que c'était que des missionnaires diocésains, parce que c'est une branche qui n'existe plus actuellement.
Oui, il n'existe plus depuis 1970, je crois, ou 1970, je crois. Oui, c'était des prêtres qui n'étaient pas attachés spécialement à une paroisse, mais qui avaient pour mission de l'évêque d'être missionnaires dans le diocèse et qui allaient de paroisse en paroisse, selon la demande des curés, pour prêcher des missions qui duraient environ 3 semaines au cours de l'année, ou bien pour prêcher des temps forts. Voilà, ce type de mission a reparu vers 1815, un peu après, pour faire revivre la foi en France. Et c'est le père Jean-Baptiste Garat qui a lancé cela avec Monseigneur d'Astros à Asparin.
Alors donc, les missionnaires ils résidaient à Asparin.
Oui.
Est-ce que le fait de choisir cette petite ferme qui s'appelait Belloc était lié à une certaine proximité par rapport à leur lieu de vie en tant que missionnaire, ou bien est-ce qu'il y a un choix particulier? Pourquoi cette ferme Belloc? Pourquoi pas l'abbaye d'Artus, où il y a eu des moines prémontrés, ou l'abbaye de Sorde, près de Peyrorade?
Oui, en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, ça a été beaucoup plus complexe. Parce que missionnaire à Asparin, le fondateur, avec deux autres missionnaires d'Asparin, avait entendu déjà parler de la fondation de la Pierre-qui-Vire dans le Morvan, dans le nord de la Bourgogne. Ils avaient entendu parler, mais à l'époque c'était très loin. Et c'est la guerre de 1870 qui, les circonstances, le hasard ou la providence, ont fait que le père Bastre, donc, Asparin, accompagnant les mobiles des Basses-Pyrénées, a rencontré un moine de la Pierre-qui-Vire pendant la campagne donc de 1870. Voilà. Et retourné à Asparin après la guerre, je ne rentre pas trop dans les détails, ils ont eu l'idée de fonder, donc, quelque chose comme ce monastère de la Pierre-qui-Vire, dont ils avaient entendu parler, dont ils avaient vu un moine pendant la campagne. Voilà. Alors, ils ont été ensuite se former, et parmi eux s'est ajouté trois autres personnes, lesquelles n'étaient pas des missionnaires d'Asparin. Il y avait un laïc et un jeune clerc, l'abbé Cayava, qui était de la Bastide Clérance, qui a été de suite très accroché par ce projet. Et il avait le sens des affaires, enfin un sens pratique que n'avait certainement pas le fondateur, et de suite il a voulu que ce monastère qui était en projet se fasse, comme il disait, dans sa petite patrie, c'est-à-dire à la Bastide. Et il a trouvé, vous avez dit une ferme, en fait c'était pas une ferme, parce que dans notre région le système des fermes n'existait guère. C'était surtout le système des métairies qui avait beaucoup d'avantages. Actuellement on y voit surtout des inconvénients, mais enfin à l'époque c'était comme ça. Ils ont trouvé une métairie qui s'appelait Belloc. Voilà, et c'est comme ça que ce père Cayava de la Bastide, voulant que cette fondation se fasse à la Bastide, a trouvé et sont établis à Belloc. Mais il faut dire qu'entre temps, effectivement, il y avait d'autres lieux, plus qui avaient été autrefois des abbayes, auxquels ils avaient pensé. Mais comme c'était trop loin de la région, ils y ont renoncé.
Donc, cette métairie Belloc, j'allais dire, attire les fondateurs. Mais ils se sont formés, vous avez dit rapidement, au monastère de la Pierre-qui-Vire. Peut-on dire un peu aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est qu'une formation à la vie monastique? Comment on se forme à la vie monastique? Parce que la vie monastique chrétienne est quand même très particulière.
Oui, on se forme à la vie monastique, c'est pas compliqué, en la vivant, tout simplement. On va dans un monastère et puis, avec la communauté, on en suit le rythme, on participe à sa vie, jour comme de nuit puisqu'il y avait l'office de nuit à 3 h du matin, et de jour avec l'alternance du travail et de la prière. Et puis alors, évidemment, on apprend l'histoire de la vie monastique en Occident, en Orient, on découvre la Bible, on découvre l'histoire de l'Église, voilà, bon, une formation théologique, ils avaient la leur, mais ils découvrent ce monde nouveau qui est cette manière, à la manière des monastères, d'essayer de vivre l'Évangile. Et ça, donc, ils l'ont fait pendant 3 ans, de 1872 à 1875, donc à ce monastère de la Pierre-qui-Vire.
Et c'est fort de ce bagage qu'ils sont revenus et ils ont lancé la vie bénédictine dans le diocèse de Bayonne. Y avait-il eu une vie monastique dans le temps, autrefois?
Il y a eu surtout les prémontrés qui avaient beaucoup d'implantations dans la région, par exemple à Artoust, vous l'avez dit, mais aussi
La Hanse.
à Laons, à d'autres endroits, au Pays Basque aussi, ils avaient beaucoup de maisons, oui.
Et alors donc, ces bénédictins arrivent et j'allais dire, ils retrouvent leurs confrères du prêtre du diocèse. Comment, j'allais dire, la relation s'est renouée, parce qu'il y a eu quand même 3 années d'absence, vous avez dit, pour la
Oui,
formation.
oui, oui.
Comment les retrouvailles se sont passées?
Voilà. Je ne crois pas que l'on puisse dire qu'il y a eu vraiment des retrouvailles ou que la relation s'est renouée, parce que je ne crois pas qu'il y a eu du tout rupture de relation. Ce qui illustre le mieux cela, je crois, c'est que l'autorisation par Monseigneur Lacroix, l'évêque de l'époque, a été donnée à ce projet de fondation monastique immédiatement par cet évêque. Parce qu'il savait qu'en autorisant la fondation d'un monastère et d'un monastère avec une perspective missionnaire, au fond, il revenait pour être missionnaire comme il l'avait été, missionnaire diocésain, mais pour être encore plus missionnaire, même s'il n'était plus diocésain, mais toujours encore plus missionnaire. Et l'évêque, donc Monseigneur Lacroix, avait bien compris que il ne perdait pas ses moines en leur donnant cette autorisation. Alors, tandis que si on compare, par exemple, avec Saint-Michel Garrigues, une génération auparavant, eh bien Saint-Michel Garrigues est mort sans avoir, en ayant attendu 40 ans, l'autorisation du même évêque pour former sa congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Bétarame. Et 40 ans après, il ne l'avait toujours pas obtenu, parce que la crainte de Monseigneur Lacroix, c'était qu'en autorisant cette congrégation, il perde les sujets qui étaient ceux du diocèse. Tandis que l'autorisation a été donnée immédiatement pour les fondateurs de Belloc, parce que l'évêque savait qu'il ne perdait pas. Et donc le contact n'a pas été, il n'y a pas eu, je crois, de rupture. Au contraire, le contact a été maintenu et a été évidemment continué avec les prédications par la suite.
On peut dire, Père Marc, que depuis 134 ans qu'existe l'abbaye de Belloc, ce contact avec l'Église locale, avec ses évêques successifs, ont toujours été bien vécus avec la communauté.
Oui, je crois même que nous devons dire que nous avons une dette de reconnaissance envers nos évêques. Notre nouvel évêque, Monseigneur Marc Haillé, est là depuis 6 mois. Mais si on parle de l'évêque précédent, Monseigneur Pierre Moller, à chaque fois qu'il y a eu des moments un petit peu difficiles au monastère, eh bien, il a été présent, il nous a donné toujours son soutien. Et nous lui en sommes très reconnaissants. Et je crois que ce qui est vrai de la relation avec les évêques est vrai aussi avec les prêtres, grâce à Dieu.
Parce qu'il faut dire aussi que chaque année, un temps spirituel, une retraite spirituelle est organisée pour les prêtres du diocèse à l'abbaye de Belloc. C'est toujours un moment très fort pour ces prêtres du diocèse qui viennent faire une halte fin août avant de préparer la rentrée, une nouvelle année. Et donc, quand on les voit arriver, j'allais dire, on les inclut vite dans notre vie communautaire et ils sont heureux de pouvoir participer. En tant qu'hôtelier, vous l'avez senti ça de très près.
Oui, bien sûr, mais à part que ce n'est pas une, mais deux retraites, normalement, enfin jusqu'à présent, je ne sais pas comment ça se passera désormais, mais jusqu'à présent, les prêtres du diocèse avaient deux retraites au monastère, deux retraites sur trois à la fin août, comme vous venez de dire, et puis également après Pâques.
On peut dire aussi pour nos auditeurs que cette relation avec le diocèse de Bayonne est aussi magnifique et belle avec le diocèse des Landes, parce qu'on a aussi la même réalité que l'évêque des Landes avec son clergé vient faire une halte spirituelle de plusieurs jours à l'abbaye de Belloc chaque année aussi.
Oui. Puis on peut dire que le recrutement de Belloc, traditionnellement, c'est Pays Basque, Béarn, Landes. C'est le même terreau et je crois le même type de relation excellente, grâce à Dieu. Oui.
Il y a eu aussi des moines qui sont venus de plus loin. Certains sont venus diocèse de Versailles. On a actuellement le frère Pierre qui est africain. Il y a toujours eu, même si ce recrutement a plus de 90%, je pense, c'était l'Aquitaine. Il y a toujours eu des... Mais il y a aussi un recrutement de Guipuscoa aussi, de Biscaye, qui s'est fait, non, je crois. Comment cette histoire est née?
Oui, c'est le fruit de l'histoire, parce qu'en 1903, il y a eu, avec le père Combes, l'application des lois de 1901. Et le résultat, c'est que Belloc s'est retrouvé dispersé du jour au lendemain, on peut dire, dans toutes les directions, puisque le fondateur n'avait pas trop prévu cette éventualité. Il disait, mais nous ne faisons pas de politique, je vois vraiment pas ce que le gouvernement pourrait nous reprocher, on ne fait rien en politique, voilà. Donc il n'a pas vu venir, mais enfin le résultat n'a pas été empêché, c'est qu'en 1903, à la fin mai 1903, tous les moines ont dû partir et le si des moines ont été à la fondation de Belloc de 1899 en Argentine, d'autres ont été dans le nord, dans l'Oklahoma, d'autres ont été à Rome, d'autres ont été en Palestine. Néanmoins, le groupe principal de moines a été dans deux endroits de l'autre côté de la frontière. D'abord à Olsa, un petit village à une trentaine de kilomètres, je crois, de Pampelune. Et puis ensuite, un autre groupe a été à une cinquantaine de kilomètres au sud, ou 40 kilomètres peut-être, au sud de Saint-Sébastien, à Idiassabal. Et finalement, toute la communauté s'est retrouvée à Idiassabal. La communauté a été très bien accueillie. Il y a eu une grande amitié, une osmose qui s'est faite entre le village et la communauté. Et d'abord, le curé du village, Don Mauricio Lusuriaga, est rentré au monastère. Il est rentré au monastère et puis des jeunes l'ont suivi. Et c'est comme ça qu'il y a eu un mouvement d'entrée au monastère de jeunes de Guipuscoa. Alors le curé Lusuriaga n'a pas pu rester et les gens en étaient très heureux qu'il soit rendu à la paroisse. Et finalement, il disait, notre curé, il est à la fois curé, il est à la fois moine, mais c'est très bien. Et tout le monde était très content. Bref, il y a eu un mouvement de vocation vers le monastère. Et puis au bout de, en 1903, oui, au bout de 2-3 ans, les moines ont quitté le village de Idiassabal et se sont installés dans un vieux monastère assez délabré, le monastère de Lascano, où il y a encore toujours des moines. Alors ce que je veux dire, c'est à propos d'Idiassabal, c'est que le lien est resté, et pour le centenaire de cette 2003, en communauté, nous avons fait un pèlerinage à ce village et à cette paroisse d'Idiassabal, de même au village d'Olsa en Navarre, et c'est ce qui prouve, pour nous ça a été une manière de renouer ces liens qui n'ont jamais été distendus, mais enfin c'était l'occasion de manifester cette longue amitié.
Vous avez évoqué ce moment très difficile des lois où il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, les expulsions des religieux. Les moines de Belloc ont quitté l'abbaye et puis ils sont revenus puisque l'abbaye de Belloc vit aujourd'hui de la règle bénédictine et donc du témoignage des moines. Comment sont-ils revenus à l'abbaye de Belloc ?
Oui, ils sont revenus, mais je voudrais préciser parce qu'il ne faut pas confondre l'expulsion des religieux en 1903 et la séparation de l'Église et de l'État qui s'est faite en décembre 1905. La séparation de l'Église et de l'État a touché les diocèses, les évêques, mais n'a pas tellement touché la vie religieuse. Et nous-mêmes, à Belloc, nous n'avons pas été touchés par cette séparation de l'Église et de l'État. Belloc, en 1905, était en exil, n'était pas directement concerné. Par exemple, c'est une chose curieuse, nous avions, depuis 1901, une maison en Palestine qui était dirigée par le père Benoît Gariador, originaire des Aldudes, qui en était le supérieur. Oui. Eh bien, le même gouvernement anticlérical qui chassait de France les religieux, le même gouvernement, suivant la formule de Gambetta, l'anticléricalisme n'est pas un produit d'exportation, favorisait les religieux missionnaires en dehors de France, dans les pays dits de mission. Et c'est ainsi que les moines de Belloc, qui étaient dans la fondation de Palestine, étaient aidés, ils recevaient même des subsides, puisqu'ils étaient gardiens d'un sanctuaire national, le monastère d'Abou Ghosh, et ils n'avaient pas de problème avec le gouvernement, au contraire. Voilà, une partie en avait, celle qui était en France, et une autre partie n'en avait pas. Voilà. Alors, je voulais préciser quand même cela, ne fût-ce que sommairement, et vous parler de la question du retour. Alors, il y a eu un premier retour avec la guerre de 14. À la guerre de 14, qui a été déclarée le dimanche 2 août 1914, le soir même, un député, le député Malvy, a fait voter un décret, peut-être que mon terme n'est pas exact, pour qu'il y ait un arrêt de l'application des lois qui chassaient les religieux. Sinon, les religieux qui seraient revenus à la guerre étaient hors la loi. Bon, donc on a levé cette difficulté juridique. Et donc tous les moines sont revenus, qui de Palestine, de Rome et surtout de Guipuscoa sont venus pour défendre la patrie. Et de suite, le père Charles, par exemple, le père Charles Campé, s'est retrouvé dans les assauts de Verdun. Bon, passons. Et il y a eu 3 moines quand même qui ont été tués. Les 3 ont été tués, pas au même endroit, mais sur une ligne proche, au chemin des Dames, au début de la guerre de 14. Mais après la guerre, ils sont revenus et ils se sont installés à Belloc. Évidemment, ils n'avaient pas le droit. Mais leur principe était ceci. Quand on a le droit de mourir pour son pays, on a le droit de vivre aussi pour son pays et dans son pays. Et donc, pas question pour eux de quitter Belloc si jamais on venait les déloger. Alors le problème est apparu en 1924 avec le cartel des gauches et Herriot, lorsque le gouvernement a voulu chasser à nouveau, remettre en application les lois qui avaient été suspendues par le décret Malvy. Le soir du jour de la déclaration de guerre. Et là, il y a eu un tollé, un refus absolu de tous les religieux, et c'est le père Doncoeur, un jésuite, qui a pris un petit peu l'initiative du mouvement, qui a écrit un texte qui est très très beau, « Nous ne partirons pas. Pour l'honneur de la France, nous ne partirons pas. La guerre, on connaît, les mitraillettes, on connaît, le canon de 75, on connaît, les bombes, on connaît, qu'on est. Quand nous étions, quand nous faisions les assauts à Verdun, personne n'est venu nous dire que nous n'avions pas la place, notre place en France. Quand on a fait la côte 203, personne n'est venu, personne nous a dit on n'avait pas notre place, etc. Et donc maintenant, on n'a pas peur, tout ça, on connaît. Nous ne partirons pas. Et le slogan, c'était « Nous ne partirons pas ». Et de fait, les religieux ne sont pas partis.
Vous voyez, chers amis de Radio Lapourdi, combien les moines savent, j'allais dire, défendre leur morceau, leur histoire, leur vocation et leur attachement à leur pays, à leur nation. C'est un très beau témoignage, je tiens quand même à le souligner. Père Marc, il y a aussi dans cette histoire donc de Belloc des moments aussi très difficiles qui ont été vécus. On a évoqué donc les expulsions, la guerre de 14-18, le retour, le droit à ce retour puisqu'ils ont payé par le prix du sang. Hein. Donc il y a eu après la Seconde Guerre mondiale. Et à la Seconde Guerre mondiale, l'abbaye de Belloc, toujours sans faire de politique, j'allais dire, a eu aussi un rôle exceptionnel. Pouvez-nous dire un petit mot ?
Oui, vous dites sans faire de politique. Et effectivement, lorsque parmi les pères, il y a eu le père abbé, le père Jean-Gabriel Ondet, et le prieur, le père Grégoire Joannatey, qui ont été déportés. Et lorsqu'ils ont été libérés, ils ont été déportés à Buchenwald et puis ensuite à Dachau. Et un petit fait que je trouve caractéristique. Lorsqu'ils ont été libérés par les Américains, ils sont passés devant les autorités américaines et l'officier américain leur a demandé pourquoi ils étaient déportés. Et le père Jean-Gabriel Ondet a répondu « charité chrétienne ». Alors l'officier a dit « comment ?» Qu'est-ce que c'est ce motif ? Oui, charité chrétienne. Et aussitôt après, pour éclaircir un peu ce motif qui ne rentrait pas trop dans les catégories de l'armée, le père Grégoire Joannatey a dit « résistance ». Voyez. Eh bien, je crois que, et eux-mêmes l'ont dit, moi je l'ai entendu de sa bouche au père Jean-Gabriel Ondet et au père Grégoire Joannatey, je l'ai entendu de la bouche, c'était pas du tout par politique, c'était par charité chrétienne. Ils ont essayé d'être chrétiennes dans cette situation très difficile, comme très, très tôt, la résistance dans les milieux religieux se sont organisés. Bon, et eux, ici, dans les situations qui étaient là, autre, puisque cette région était quand même un lieu de passage vers l'Espagne. Voilà. Alors, ils ont été sollicités de suite et ils sont rentrés dans la communauté, la communauté. Et plusieurs pères sont rentrés dans la communauté, dans le réseau réseau Orion, qui était un sous-réseau Shelburne.
D'ailleurs, chers amis de Radio Lapourdi, et si vous venez à l'abbaye de Belloc, vous pourrez voir sur le parking, à l'ombre des tilleuls, une stèle en pierre où est gravée justement la mémoire de ce passage du réseau Orion qui passait par l'abbaye de Belloc et les noms des moines et aussi des résistants qui ont été, j'allais dire, des collaborateurs efficaces pour la liberté. Cette guerre de 39-40, l'occupation, il y a eu donc la déportation de 3 moines en fait. 2 ont été dans des camps de concentration, mais le troisième ne s'est pas arrêté. Qui était-il ?
Déporté, il y a eu donc ces deux pères que j'ai cités. Mais l'arrestation, les Allemands ont arrêté 3 moines. En plus des 2 cités, il y avait le père Hôtelier, le père Ildefonse d'Haricot. Alors, père Ildefonse d'Haricot était un intellectuel, un homme très fin, très logique, et très doué pour raisonner. Et pour argumenter. Et je crois que c'est ça qui l'a sauvé et qui l'a libéré des mains des Allemands. Alors tous les 3 ont été emmenés d'abord en prison pendant quelques jours à Bayonne et ensuite ils ont passé 3 mois, je crois, au fort du Ha à Bordeaux. Et c'est là que le père Ildefonse a pu prouver aux Allemands que vraiment il n'était pas du tout au courant de ce qui se passait. Alors ce qu'il faut dire, c'est que pratiquement l'instigateur de la résistance, c'était lui. Parce que d'abord, c'était un lecteur de. Je ne sais pas s'il lisait Témoignages chrétiens. du père Chaillet. Je n'ai pas de preuves, mais ce qui est certain, c'est que c'était un lecteur de cette mouvance. Et de suite, il a compris que il a compris qu'il devait rentrer dans la résistance, et c'est lui qui a entraîné les autres. Certainement qu'il a eu un grand rôle pour cela. Et en plus, il était hôtelier, et donc c'était lui qui recevait et faisait passer avec les autres, bien entendu. Alors j'ai cité les deux autres, il faudrait citer encore un autre père qui n'a pas été arrêté, lui, parce qu'il est parti à temps, il a vu venir, il a flairé l'arrestation, c'est le père Bernardin d'Armendrail, qui lui a été, par l'Espagne, a rejoint De Gaulle en Angleterre. Voilà. Les quatre qui sont intervenus, chacun à sa manière, mais c'est le père Ildefonse Darigaud qui était de la Batute, qui a été l'instigateur et la tête pensante du mouvement de résistance au monastère.
Quand il a été libéré du fort du Ha, puisqu'il était la tête pensante de ce mouvement de résistance, est-ce que vous avez eu des confidences de sa part pour savoir comment il a vécu les mois qui suivaient, parce qu'il savait bien que le père abbé, le père prieur, était toujours en prison, peut-être pas de nouvelles. Comment il a vécu cette période-là?
D'abord, une chose qui m'a frappé, c'est que lui ou les autres ne gardaient pas d'amertume de leur temps de déportation. Ça, je peux le dire. C'est une chose que, quand j'étais jeune moine, qui m'a beaucoup, beaucoup frappé. Je les ai interrogés là-dessus. Je n'ai jamais senti vraiment de rancune ou d'amertume. Par exemple, le réseau par lequel ils ont été arrêtés a été livré, a été trahi. Je ne dis pas le nom dans le livre, bon, on sait, mais je n'ai jamais même senti contre lui la moindre amertume. Alors, le père Ildefonse était très frappé, il me l'a souvent dit, que dans sa prison, ils étaient entassés comme des sardines dans cette prison, dans cette cellule, mais néanmoins, on l'avait autorisé à garder son bréviaire. Ce bréviaire en latin, bien entendu. Et il me disait, les hommes étaient tellement frustrés de lecture qu'ils se disputaient pour lire le bréviaire en latin. Ils ne comprenaient rien, mais ils avaient une telle soif de lire qu'ils auraient lu n'importe quoi. Voilà, ils me racontaient des petits faits comme ça. Mais alors ensuite, de déportation de Buchenwald, la communauté reçut des lettres, écrites bien entendu en allemand. Je ne sais pas comment ils écrivaient en allemand. Je ne sais pas qui leur écrivait ça, des lettres évidemment tout à fait conventionnelles pour dire tout va très bien, ça va très bien. Bon, ils ne pouvaient pas dire autre chose, mais au moins on savait qu'ils existaient.
Nous n'allons pas aborder tous les grands événements historiques de l'abbaye de Belloc, et je pense que nous allons terminer sur un autre fait quand même qui est très important, puisqu'il se vit encore toujours, c'est l'abbaye de Belloc qui dès le départ, un artisan du dialogue écuménique entre chrétiens. Et donc, cela se poursuit avec les églises protestantes, anglicanes, la petite communauté orthodoxe qui est sur la côte basque, etc. Donc, comment un monastère, quelle est la place d'un monastère, d'une communauté de moines dans ce dialogue écuménique entre chrétiens, Père Marc?
Alors, vous avez l'air de dire que Belloc s'est engagé dans l'écuménisme depuis le début. Non, s'est engagé très tardivement, puisque ça a commencé vers 1950. Ça a commencé de cette manière-ci, c'est qu'un père de Belloc, le père Bernard, Bernard Lavie, avait été envoyé faire ses études à Lille. Il payait ses études en étant pion dans un collège jésuite. Et là, il avait rencontré des communautés orientées vers l'écuménisme, en particulier vers les relations, vers les anglicans. Voilà, c'est comme ça que... Voilà. Et puis ensuite, après ses études, il est rentré à Belloc, et il avait gardé, ça lui avait ouvert l'esprit vers l'écuménisme. C'est comme ça que, vous voyez, donc très tardivement, Belloc a découvert de cette manière l'écuménisme. Et puis un beau jour, il y a eu une demande de M. Horry, de Hortès, qui est venu. C'était quelques années avant le concile. L'écuménisme, c'était pas trop, on n'en parlait pas trop. Mais
le concile, c'est quelle année?
C'est 61-65, Concile Vatican II. C'est à peu près au même moment, le grand séminaire de Bayonne faisait... Ça ne s'appelait pas écuménisme, ça s'appelait travail pour l'unité des chrétiens. Et déjà, à la même époque, de la même manière, avec d'autres circonstances, mais c'est le même mouvement, le grand séminaire de Bayonne donnait une dimension, ce que nous appellerions aujourd'hui une dimension écuménique à sa théologie, à ses cours de théologie, à ses rencontres. Voilà. Eh bien, à Belloc, ça s'est fait donc par une demande de M. Horry d'Orthez, qui lançait avec une communauté, avec les chrétiens catholiques et protestants d'Orthez, qui lançait quelque chose comme cela. Il se dit, ben, et pourquoi ne pas faire quelque chose avec des moines, voilà. Et donc, finalement, ça, le père abbé de l'époque, père Jean-Pierre Enda, était tout à fait d'accord. Et c'est puisque le père Bernard Lavie était lui-même sensibilisé de son côté, avec son passage à Lille, où il avait découvert les relations avec les anglicans, eh bien, ça s'est fait tout naturellement. Et puis ensuite, le docteur et madame Larocque de Bayonne sont venus, et ça a fait, voilà, c'est à partir d'eux que s'est fait cet intérêt et puis cette sensibilisation à cette exigence d'unité pour nous chrétiens aujourd'hui.
Il y a aussi un autre aspect de la vie monastique chrétienne qui a aussi son importance, c'est la dimension du travail et la dimension de l'accueil. Pouvez-vous nous dire, en lien avec la règle de Saint-Benoît, règle de vie des moines occidentaux, comment cette vie se réalise à l'abbaye?
Oui, et vous soulignez ces deux aspects de travail et d'accueil, ils sont très traditionnels, puisque Saint-Benoît, au VIe siècle, dans sa règle, consacre à chacun de ces sujets un chapitre spécial. Alors d'abord, la question du travail, c'est tout simplement cette volonté, comme dit Saint-Benoît, d'être comme les apôtres, de gagner sa vie par le travail. Bon, c'est quelque chose d'aussi ancien que le monachisme, et en même temps, je crois, très actuel. Voilà, pour le travail. Et pour la dimension d'accueil, également très traditionnel, les moines ont toujours accueilli, et c'est tout au long de l'histoire de notre monastère qu'il y a cette dimension d'accueil. Par exemple, l'accueil, en 1936, des réfugiés basques espagnols. Bon, c'est pas parce qu'ils étaient basques espagnols qu'ils ont été accueillis, c'est parce que le monastère se faisait un devoir d'accueillir des personnes en difficulté. Voilà.
Donc, de cette histoire de l'abbaye de Belloc, il y a une véritable histoire humaine de chair et de sang, de passion, mais aussi une histoire aussi chrétienne, parce que ces hommes sont travaillés par Dieu. C'est la dimension de la prière. Pouvez-vous nous dire un mot là-dessus ?
Cette dimension de prière, bien entendu, elle est grande dans un monastère, mais elle n'est pas tout à fait spéciale. C'est tout chrétien a une part de prière dans sa vie, bien entendu. Tout chrétien a une part de charité fraternelle. Tout chrétien a une part de participer aux soucis des autres. Tout chrétien a une part d'aider, etc. Alors, d'un chrétien à l'autre, c'est le dosage, si je puis dire, qui change. Et dans la vie monastique, dans le dosage, c'est vrai qu'il y a une forte proportion de prières. Puisque nous avons la prière en communauté, bien sûr, qui rythme la journée avec les différents offices, le matin à 6h, ensuite à 8h, ensuite l'Eucharistie à midi, ensuite un office en début d'après-midi, et puis les vêpres en fin d'après-midi, puis le soir de 9 à 10. Voilà, qui est ces temps de prière. prière qui rythme la journée, et entre les offices, chacun qui va à son travail. Prière, travail. C'est un peu la devise des monastères, mais une fois de plus, prière et travail, ça n'a rien de spécifique à un moine. C'est tout chrétien qui a prière et travail. C'est vrai que nous, dans notre dosage, si je puis dire, un terme pas très théologique, la prière a une grande part. Voilà, sans compter la prière personnelle, bien entendu, et puis ce que nous alimenter par ce que nous appelons la lectio divina, c'est-à-dire la lecture spirituelle, c'est-à-dire la part de lecture de l'Écriture sainte. Personnellement, je n'aime pas dire lecture, j'aime mieux dire écoute de la parole de Dieu, mais ça revient au même.
Cette dimension de l'écoute est chère à notre évêque, Monseigneur Hayé, puisqu'il en a fait le terme clé de sa devise, écoute Israël. Alors donc, les moines, j'allais dire, dans cette dimension de l'écoute, sont un peu aussi des guides spirituels, quelque part.
Oui, nous n'avons pas cette prétention de nous ériger en guide spirituel de qui que ce soit. Mais ce qui est certain, c'est que, surtout depuis Vatican II, les papes et les évêques, et concrètement pour nous, Mgr Vincent, puis Mgr Moller, puis je pense Mgr Marc Hayé, les papes et les évêques demandent au monastère d'exercer et même d'augmenter cette dimension d'accueil. Alors, je viens de dire il y a deux minutes que c'était très traditionnel, c'est vrai, ça l'est, mais je crois que c'est l'Église qui pense que de nos jours, c'est un des services que rendent les monastères, qu'ils soient un lieu de formation, un lieu de ressourcement, un lieu où on retrouve un peu, où on retrouve Dieu, où on se retrouve soi-même à la lumière de Dieu. Et personnellement, j'aime bien cette expression de Jean-Paul II qui disait tout cela d'un mot, un monastère, c'est une petite source.
Eh bien, chers amis de Radio La Pourdie, au cours de votre promenade, si vous avez soif de vie, eh bien, arrêtez-vous à l'abbaye de Belloc. Il y a non seulement une petite fontaine dans le parc de l'abbaye pour vous désaltérer, mais il y a aussi ce lieu qui, habité par les moines, dans la présence du Christ, justement, pourront vous donner cette eau vive. Merci, Père Marc, de cet entretien. Et puis, si vous voulez en savoir plus, parce que je sais que vous êtes curieux, eh bien, vous venez à l'abbaye de Belloc pour prendre ce livre du Père Marc Doucet. Sachez que ce livre est très coté, de la part non seulement des historiens locaux, mais j'allais dire des hommes qui aiment l'histoire, et puis par les bibliophiles. Chers amis de Radio La Pourdie, et bon été.
Un grand merci au frère Jean-François et au père Marc Doucet pour la présentation de cet ouvrage, préfacé donc par Mgr Claude Dagens de l'Académie française, « Des hommes travaillés par Dieu, histoire de l'abbaye de Belloc », un ouvrage paru aux éditions Cerf Histoire, que vous pouvez bien sûr vous procurer à l'abbaye de Belloc. Chers auditeurs, l'émission que vous venez de suivre est une rediffusion d'une émission enregistrée en 2009.